Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face, vos rendez-vous du samedi jusqu'à 13h la semaine des humoristes, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, et puis la République est-elle encore une et indivisible? Et s'il fallait oublier l'article 1 de notre Constitution et s'habituer à regarder la France comme un archipel, un groupe d'îles isolées les unes des autres, séparées par l'argent, les modes de vie, la culture, c'est la conclusion d'un livre qui décrit une France qui se fragmente, une société devenue multiculturelle et sans plus grand-chose de commun. Symptôme, la diversification des prénoms que les Français donnent à leurs enfants. Le titre de cette étude, l'archipel français. L'auteur est le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, et il sera notre invité dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Et lundi, c'était le remaniement du gouvernement qui faisait l'actualité. Analyse de Frédéric Sigrist.
On en est quand même à 14 départs en moins de 2 ans. Tu te mets devant l'Elysée, c'est le Vendée Globe, quoi. Tu les vois sortir comme ça, oh, encore un. Et c'est même pas ça le pire. Un gouvernement qui falsifie des vidéos pour protéger le garde du corps du président. C'est énorme. À un moment, ils ont même voulu demander au concepteur des effets spéciaux de Star Wars de créer un tyrannosaure, hein, contre lequel Benalla aurait pu se battre. Et puis, ils se sont dit, non, ça va se voir quand même qu'on a truqué, là. Une porte-parole, si BFNDI, qui assume de mentir ouvertement si ça peut servir d'action du gouvernement. Un premier ministre, Édouard Philippe, aux abonnés absents parce qu'il est occupé à empêcher son successeur à la mairie du Havre d'envoyer des photos de son sgeg à n'importe qui. Et franchement, mais quand tu regardes ça de loin, tu te dis, si c'est eux les premiers de cordée, je veux pas voir la gueule des derniers.
Les partis politiques bouclent leur liste pour les européennes. C'est le cas notamment des Patriotes de Florian Philippot qui a choisi d'intégrer des gilets jaunes sur sa liste. Les analyses de Daniel Morin.
Bonjour, c'est Florian Philippot. Tu es gilet jaune, tu en as marre de la perte du pouvoir d'achat, de galérer tous les samedis à te faire canarder, coincé entre des CRS et des casseurs. Tu vas un train de vie équivalent à 15 000 euros mensuels. Eh bien, tente la grande aventure des Patriotes pour les prochaines européennes avec moi, Florian Philippot. J'ai besoin de toi. Pour toute inscription, appelle le 0800-123-456. 0800-123-456.
3 jours plus tard, au siège des Patriotes.
Alors, combien d'appels ?
Aucun, monsieur Florian.
Merde !
Faut taper plus large, monsieur Florian.
Ok, on passe à la phase 2. Bonjour, c'est Florian Philippot. Tu es pauvre, tu as entre 18 et 91 ans, tu es de race humaine et tu veux 15 000 euros mensuels. Tente la grande aventure des Patriotes pour les prochaines européennes avec moi, Florian Philippot.
2 jours plus tard, au siège des Patriotes.
Alors, combien d'appels ?
1.
Génial, c'est qui ?
Alexandre Benalla.
Oh putain, c'est pas vrai. Bon, on fait quoi?
On n'a plus le choix, monsieur Florian. Faut passer l'appel.
Non, c'est pas possible, c'est trop humiliant. Bonjour Marine, c'est Florian. J'ai déconné, je sais, mais je m'excuse. Reprends-moi avec toi, je te jure, je t'emmerderai plus avec mes idées. Allez, fais pas ta chienne. Moi aussi, je veux un train de vie équivalent à 15 000 euros mensuels. Allez, tente la grande aventure des européennes avec moi.
La campagne pour les européennes a donc commencé avant le débat de jeudi soir. Séance de coaching pour Raphaël Glucksmann, assurée par sa compagne Léa Salamé.
Alors, t'as bien révisé les fiches, je les préparais.
Non, mais de toute façon, t'inquiète, j'ai déjà tout révisé avec Olivier, donc...
Olivier
Faure.
Le premier secrétaire du PS.
Ouais, ouais.
T'as bien écouté tout ce qu'il t'a dit.
Bah, tout, 100% focus, j'ai tout noté.
Parfait, bah tu fais exactement l'inverse.
Mais...
Pas de mais. Faire l'inverse du PS, c'est la base.
Waouh, t'es trop forte, pupus.
Mais arrête.
T'es belle quand tu te mets en colère, comme ça.
Focus, Raphaël, focus.
Focus. Ouais. En fait, Alexandra Ben Saïd, tu la connais un peu, elle est sympa.
Ouais, alors la méfiance, parce qu'il y a même pas 2 semaines qu'elle me remplace. Hier, elle a déjà invité Benoît Hamon à la matinale.
Ah, la traîtresse.
Allez, un petit test. Ouais. Si tu dois résumer en 10 secondes ton message, tu dis quoi?
Message, alors je sais pas moi.
Allez vite là!
Que mon but c'est de rassembler toutes les forces de gauche afin de leur montrer qu'ensemble tout devient possible.
Tu plaisantes là?
Quoi?
Ensemble tout devient possible.
Ah non, ouais. Pardon, ah, ouais. J'ai des restes de 2007 quand je soutenais Sarkozy.
Bon, sinon ils t'ont demandé de ramener un objet qui symbolise l'Europe, non?
Ouais, j'ai pensé à ma carte Flying Blue d'Air France.
Quoi? Ouais. Mais tu veux faire élire Yannick Jadot ou quoi?
Oh, quand t'es en colère comme ça, mais t'es belle, pupu!
J'appelle France Inter, je sens que je vais revenir plus tôt que prévu, Nicolas.
Le président de la République a résumé l'enjeu du scrutin du 26 mai prochain, populisme contre progressisme. Mais quelles sont les différences entre les deux? Guillaume Meurice s'est allé poser la question aux Français.
Le populisme, c'est revenir vers des politiques beaucoup plus fermes et très droites. Progressisme, ça veut dire littéralement progression.
Est-ce que Macron, il est progressiste ? Quand il baisse les APL, est-ce qu'il est progressiste ?
Non, mais c'est vrai qu'on est un peuple d'assistés.
Ah, alors le progressisme, ça ressemble quand même vachement au populisme de droite. C'est Laurent Wauquiez, il est quoi ? Du coup, on est perdu, hein. Il est populgressiste, on ne sait pas. Enfin, soyez sur le coup, essayez de bien suivre, hein, parce que je vous rappelle que vous votez n'importe quoi à chaque fois. Est-ce que, par exemple, supprimer l'ISF, c'est progressiste ?
Ah ben oui.
Ça, c'est progressiste. Pourquoi ?
Je crois que, d'après ce que j'ai lu, l'ISF ne fait pas gagner beaucoup d'argent à l'État.
Donc pour vous, c'est un progrès de l'avoir supprimé.
Ouais, exactement.
Donc c'est progressiste, on est bon.
Voilà.
Bah on y arrive, un petit à petit. Hein, faire des cadeaux à des riches, donc c'est progressiste. Rothschild, progressif à fond. La BNP qui vous refuse un prêt, progressisme de ouf. Hein. Voilà, vous pouvez y aller. On est donc prêt pour ces nouveaux mots de prêt-à-penser, issus d'une nouvelle langue qu'on pourrait renommer l'abrutisme.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire, je vous le dis en toute amitié, parce que c'est pas au président de la République de tout faire et c'est pas dans des rapports de force. C'est un travail qui se passe dans la société. Je pense que ceux qui veulent aujourd'hui défendre l'identité corse doivent aussi faire ce travail mémoriel et savoir dire les choses.
C'était donc jeudi, dernière étape de la tournée présidentielle du grand débat d'Emmanuel Macron, un tour de France en 80 jours, 14 réunions, combien d'heures passées à débattre, à écouter, à parler. Le grand débat est enfin terminé, Natacha, vous êtes soulagée ?
Oui, c'est pas une question de soulagement, on n'est pas soulagé, on attend. C'est bien le problème, c'est que le grand débat est enfin terminé, qu'on est dans l'expectative la plus totale et qu'on a des signaux de la part des membres du gouvernement, de la part de tout l'entourage d'Emmanuel Macron, qui laissent penser qu'il ne sait absolument pas comment il va conclure tout ça. Et je crains que la seule conclusion qu'il trouve soit de nous remettre sa réforme institutionnelle qui était prévue, qui devait être mise en œuvre à partir de l'été dernier et qui a été remisée pour cause d'affaires Benalla. Et qui mériterait quand même d'être débattu un peu plus longuement.
Ça a été un bel exercice, mais qui s'est étiré longuement. On arrive au bout, il faut maintenant en sortir. La difficulté est de répondre à l'intensité des attentes de changement, eux-mêmes très contradictoires. Et c'est aussi pour Emmanuel Macron de retrouver les voies de la réforme avec un pays qui s'est quand même immobilisé depuis plusieurs mois. Et avec une question, c'est est-ce qu'il y aura un Emmanuel Macron 2 ou est-ce que ça va être la poursuite de Emmanuel Macron 1, est-ce que on va rester pour reprendre la formule que Emmanuel Macron vient d'utiliser avec un président de la République qui fait tout ou pas?
Avec le remaniement qui a eu lieu et qui indique des choses qui pour vous sont pertinentes, Gilles?
Qui indique que le président de la République a choisi de nommer des proches, de nommer des collaborateurs plutôt que des parlementaires. C'est une des difficultés aussi de La République En Marche, c'est de ne pas avoir réussi à faire émerger une génération d'élus.
Oui, du coup, il en est réduit à nommer des gens qui sont avant tout des communicants. Ce qui symboliquement...
Amélie de Montchalin est plus qu'une communicante.
Amélie, je ne pensais pas.
Cédrico aussi.
Pardon, mais ces gens ont des profils qui nous renseignent sur le fonctionnement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a en effet un problème d'ouverture politique et de capacité à faire émerger des figures qui soient des figures de poids. Ce n'est pas seulement lié au fait que La République En Marche est un mouvement jeune. C'est lié au fait qu'il s'est créé sur une dynamique qui était une dynamique qui mettait en avant des profils de gens tous semblables. Et du coup, il est très compliqué de piocher dans ces parlementaires des gens différents pour être ministre. Mais je reviens sur le débat. Sur le grand débat, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a utilisé ce débat pour, disons-le clairement, se refaire la cerise quoi, après le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il en a fait un exercice de communication et qu'il est excellent dans cet exercice-là. Politiquement, les attentes, elles ne sont pas si contradictoires que ça. Les attentes des Français qui ont adhéré à ce mouvement, je ne parle pas de ceux qui restent maintenant, hein, je parle au début, les 80% de Français qui ont trouvé que ce mouvement était intéressant, ce qui émerge, c'est la question de la justice et la question institutionnel. Donc il faut réfléchir à réinsuffler de la démocratie. C'est ce que Emmanuel Macron ne va pas faire, hélas.
Gilles.
Ça, attendons de voir. Les demandes sont... L'intensité de la demande de changement est incroyable. Je crois que je ne sais pas si je citais déjà ce chiffre-là la semaine dernière. 86% des Français qui disent on attend un profond changement de politique économique et sociale. C'est pas sûr qu'ils aient tous exactement en tête les mêmes changements, mais il y a une, et c'est pareil, à peu près les mêmes niveaux pour les réformes démocratiques et institutionnelles. Ce sont les deux grands chantiers sur lesquels le président de la République doit maintenant apporter des réponses.
Le tour de France d'Emmanuel Macron est donc terminé et la campagne pour les élections européennes a commencé. Coup d'envoi jeudi soir avec les têtes de liste qui débattaient sur France Inter et France 2.
J'ai bien compris que pour vous, c'était l'Europe, on la change ou on la quitte. Pour nous, c'est l'Europe, on y est
nous,
et on
monsieur,
la change. C'est deux choses
nous,
totalement
nous
différentes.
Nous n'acceptons pas, nous donnons les moyens pour la transition écologique.
Deux choses totalement
si j'ai été interpellée, je vais répondre parfaitement. Rapidement, nous bonne donnons les moyens. Vous. Comment faites-vous la transition écologique quand vous avez juste 3% de déficit?
C'était l'une des passes d'armes qui ont eu lieu au cours de ce débat. Passe d'armes entre Manon Aubry de la France Insoumise et Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts sur la construction européenne. 12 candidats, 12 têtes de liste pour un drôle de débat. Qu'en avez-vous pensé, Natacha ?
Je pense qu'il y a la question de la forme et la question du fond. Sur la question de la forme, il va falloir que nous, médias, nous réfléchissions à la façon dont nous pouvons mettre en scène correctement le débat public, le débat politique. Je suis scandalisée quand on évacue des candidats jugés petits parce que on estime qu'ils ne valent rien. Il me semble que ça empêche de renouveler les idées et de permettre de représenter l'ensemble du panel idéologique. Pour autant, 12 candidats avec cette espèce de côté concours de beauté et QCM, c'est consternant, ça ne permet pas de penser. Donc il faut tous ensemble réfléchir à la façon dont on s'y prend et s'il ne faut pas mettre en place éventuellement des débats qui soient, je ne sais pas moi, d'abord en tirant au sort et en faisant deux débats différents, en tirant au sort les candidats, ou alors en mettant en place quelque chose qui leur permette de s'exprimer un peu plus longuement. Et ensuite, sur le fond, je pense qu'on avait un problème dans ce débat qui est le fait que ces gens ont un bilan sur l'Union européenne. Et que là, il n'y en a plus un pour soutenir l'Union européenne telle qu'elle est. Hein. On entend il faut que l'Europe protège, arrêtons d'être naïfs. Il y a 5 ans, on se faisait traiter d'anti-européens, de nationalistes quand on disait ça. Je suis ravie qu'ils y viennent tous. Mais le problème est de savoir concrètement comment on fait évoluer.
Gilles.
Alors, je suis assez d'accord avec Natacha. Vous avez dit, Ali, que le débat... La campagne avait commencé, la campagne aurait pu commencer. Hier, c'était le premier grand débat avec, pour la première fois, l'ensemble des têtes de liste. Mais quand on le regarde, on voit que les conditions d'un débat, c'est-à-dire d'un échange d'arguments, ne sont pas réunies. On avait dit la même chose dans le grand débat avec les intellectuels et Emmanuel Macron, 67 personnes. Même si vous étirez ça pendant de longues heures, les conditions d'un débat ne sont pas réunies. Et je crois qu'il eût été plus intéressant, ou il sera plus intéressant, d'avoir 3 débats d'une heure et quart chacun avec 4 têtes de liste plutôt que ce débat.
Mais comment les choisir?
Que ce débat à 12, vous tirez au sort. Enfin, en tout cas, ça mérite une réflexion. Ce qui est certain, c'est qu'un débat comme cela ne permet pas de faire émerger ce que sont les enjeux de cette campagne. Et donc, le risque, c'est qu'on ait non seulement que la campagne n'a pas commencé, mais qu'elle ne commence jamais et qu'on ait des élections, mais qu'on ait des élections sans campagne et qu'au bout du bout, on ait des élections sans électeurs ou en tout cas sans autres électeurs que ceux qui s'intéressent de manière passionnée à la politique, c'est-à-dire moins de la moitié des Français.
Natacha.
Oui, parce que par exemple, l'extrait que vous avez passé entre Manon Aubry et Yannick Jadot est très intéressant. En effet, la question de la transition écologique, ils sont tous écologistes là maintenant. Ils sont tous pour l'écologie.
Oui, c'est leur seul point commun.
Oui, à ceci près qu'en matière d'écologie, justement, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a des pressions de la part de lobbies, il y a des rapports de force qu'il faut pouvoir expliciter pour que les gens se rendent compte exactement de la façon dont fonctionne le Parlement européen et donc de ce qu'on pourrait mettre en place pour réellement faire une transition. Manon Aubry essaye de faire valoir que dans les règles actuelles des traités, on ne peut pas mettre en place un grand plan d'investissement, ça, il faut le creuser. Il faut discuter de ce que serait une possibilité d'investissement. Qu'est-ce qui bloque ? D'abord, la volonté allemande. Ensuite, le fait que les Allemands ont une puissance plus forte que la nôtre dans les institutions européennes. Enfin, vous voyez, il faut aller au bout de l'argumentation. S'il s'agit juste de s'écharper, je pense que là, les gens qui écoutaient n'en ont rien retiré.
Est-ce qu'on peut dire que l'un des candidats, l'une des têtes de liste, s'en est mieux sorti que les autres ? Ou est-ce que ce genre de classement, de notation n'a pas de sens?
Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens. Je pense que pour beaucoup de Français, je ne sais pas encore combien ont écouté cette émission et ont regardé cette émission.
Autour d'un 1 600 000, 1 800 000 personnes.
Ce qui, en soi, est un indicateur. Et ce qu'il faudra regarder aussi, c'est quelle est l'évolution au cours de la longue soirée du nombre d'auditeurs devant
poste.
Ce débat. Est-ce que quelqu'un a émergé? Je pense que ça a été pour beaucoup une découverte. Je pense que le Jordan Bardella, peut-être, a été, c'est difficile de le dire, mais a été assez bon.
Natacha ?
Oui, c'est-à-dire, mais là, on est dans le commentaire sur la forme, sur la capacité à s'imposer. En effet.
C'est le risque d'un débat quand il n'y a pas de débat.
Ben voilà. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut dire au sortir de cela, c'est pas les arguments de telle liste sont intéressants, c'est en termes de combativité, de charisme, un tel s'en sort mieux qu'un tel. C'est tout de même dommage.
Et on peut retenir aussi les menottes sadomaso de François Asselineau, puisque chacun apportait un objet qui symbolisait l'Union européenne. C'était son choix, choix plutôt surprenant.
Oui, et personne n'a apporté, par exemple, le drapeau européen. Hein, si on veut brandir l'étendard, ça rejoint ce que disait Natacha tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Dans l'actualité aussi, un parachute doré de 36,8 millions d'euros pour Tom Enders. C'est Proxinvest, la première agence française d'analyse de gouvernance, qui a calculé l'enveloppe globale que touchera le président exécutif d'Airbus lorsqu'il quittera son poste le 10 avril, c'est-à-dire mercredi prochain. Près de 37 millions d'euros pour cet homme, Tom Enders. Est-ce que c'est normal, justifié ? Ou pas, Natacha ?
Alors, d'abord, il faut poser la question de plusieurs manières. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal ou justifié ? N'importe quel individu normalement constitué dit non. Franchement, 37 millions à ce niveau-là, ça...
Mais il faut rentrer un peu dans... Sauf le conseil d'administration d'Airbus qui a décidé de lui verser cette somme.
Tous les conseils d'administration, comme en général, chacun espère un jour être à peu près servi de la même manière. Enfin, tout ça se joue entre un petit groupe de personnes à l'échelle de la planète. Non, première question... Quel a été le rôle de Tom Enders à Airbus ? Nous avons sorti un papier dans Marianne il y a 2 semaines qui expliquait comment il a systématiquement défendu, en fait, protégé les intérêts américains contre Airbus. Et aujourd'hui, l'entreprise est en train de passer sous contrôle américain parce que Tom Enders est un atlantiste convaincu et donc il n'a absolument pas préservé l'existence de ce partenariat franco-allemand qui faisait la spécificité d'Airbus. Donc ça, c'est le premier point et c'est très grave parce que partir avec 37 millions, certes, mais de partir avec 37 millions en ayant cette responsabilité-là sur un fleuron industriel, c'est encore autre chose. Deuxième point, ensuite, comment on fait pour éviter ça ? Est-ce qu'on empêche les rémunérations ? Ils se paieront par dividendes, ce qui sera encore pire pour les entreprises. En revanche, on peut dire Barack Obama, par exemple, avait taxé à 90% les salaires, ce genre de salaire, pour, par exemple, les assureurs AIG. Voilà. C'est-à-dire, le problème n'est peut-être pas d'interdire les rémunérations, mais de mettre en place un impôt qui fasse très mal. Ça nécessite que l'impôt soit universel, comme l'est l'impôt américain. C'est-à-dire qu'on récupère les gens partout où ils sont.
Gilles, ce qui me gêne quand on part du bilan de Tom Enders, c'est que si on arrivait à la conclusion que le bilan était très bon, est-ce que pour autant ça justifierait une telle rémunération ? Et donc, oui. En tout état de cause, pour moi, que le bilan soit bon, moyen ou désastreux, rien ne peut justifier des rémunérations donc là, derrière...
Autrement dit, l'argument selon lequel Airbus, qui a réalisé un bénéfice net de 3 milliards d'euros en 2018, n'est pas un argument suffisant.
Non. Je crois que derrière, il y a une question politique fondamentale qui est de retrouver un discours critique sur des dérives du système capitaliste qui fait preuve de plus en plus d'une cécité, d'un court-termisme, du primat, d'une logique financière par rapport à des logiques de long terme. de plus en plus inégalitaire, avec une concentration de plus en plus étroite sur un petit pourcentage de la population. C'est vrai dans beaucoup de pays, un peu moins peut-être en France, mais c'est vrai quand même. Donc il faut faire cette critique-là du système capitaliste. Jean Pisani-Ferry a eu cette semaine une formule qui est, je crois, assez juste. C'est trop de concurrence entre les États, trop peu de concurrence entre les entreprises. C'est ça les dérives que l'on voit à l'œuvre. Donc il y a cette question politique. Et puis derrière, Natacha a raison, il y a des questions techniques. C'est comment on fait pour empêcher... Parce que beaucoup a été fait dans le secteur public, on y arrive parce que la gauche a plafonné les rémunérations. Dans le secteur privé, il y a eu des avancées de transparence en amont, des avancées de fiscalité en aval. Mais là, le problème, c'est que, hein, si on veut être précis, c'est que vous avez un patron d'une entreprise cotée en France qui ne respecte pas les règles française parce que le siège de l'entreprise est aux Pays-Bas. Et ben là, il faut, là aussi je dis réponse technique, il y a des réponses techniques possibles. Au Royaume-Uni, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'imagination de ceux qui veulent contourner. Et ben il faut qu'il y ait autant d'imagination de l'autre côté.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Une jeune femme trans insultée, frappée dimanche dernier, place de la République, au cours d'une manifestation contre Abdelaziz Bouteflika. Julia, cette jeune femme, a décidé de porter plainte. Écoutez son témoignage.
Il faut savoir quelque chose, c'est que la violence envers cette communauté, elle est quotidienne, que ça soit verbalement, par des insultes. Si vous regardez les chiffres de toutes les agressions homophobes, transphobes qu'il y a eu ces derniers mois à Paris, c'est pas acceptable.
Et ce qui est très frappant, Natacha, c'est qu'elle témoignait de ses agressions, de ses comportements déplacés au quotidien, tous les jours. « Je suis trans, et alors ?» C'était le titre de une de Libération jeudi. C'est la bonne manière de poser la question ?
En tout cas, il faut se poser la question de savoir comment nous pouvons fabriquer une société qui respecte les individus, qui fait en sorte que il n'y ait pas ces pulsions de haine et d'agressivité vis-à-vis de la différence. C'est tout de même assez consternant de voir qu'on en est encore là. Simplement, c'est un travail de très longue haleine, c'est un travail d'éducation. Il est petit à petit fait. Je pense qu'il y a des flux et des reflux en la matière, d'abord. J'ai le souvenir, par exemple, de l'affolement autour des ABCD de l'égalité à l'école. J'étais totalement contre les ABCD de l'égalité, mais les délires et les fantasmes qui se sont manifestés ici et là sur le thème « on veut apprendre à nos enfants à être homosexuels », ça faisait très peur. Donc, il faut en permanence faire un travail d'explication. Mais on peut pas croire que ça va se résoudre, hélas, tout de suite.
Gilles,
bon, je crois que pour tous ceux d'abord qui ont vu cette vidéo, il y a une réaction d'indignation, de dégoût, de quelque chose qui est vraiment moche, d'une femme seule face à une meute et la violence. Après, il y a un paradoxe de la société française qui est une des plus tolérantes et une des plus libérales du monde. Quand on pose les questions sur est-ce que vous considérez que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité, on est un des pays les plus libéraux du monde et on est beaucoup, beaucoup plus libéraux qu'avant. Pour la première fois, cette question a été posée en 1975. Vous aviez 25% des Français qui répondaient l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité. On est à 87% aujourd'hui. Donc d'un côté, la France est un des pays les plus tolérants du monde, et d'un autre côté, les violences envers les personnes LGBT restent très élevées. Peu d'actes qui sont déclarés. L'année dernière, c'est 1000 actes, peu, relativement peu. En revanche, la Fondation Jean Jaurès a réalisé, il y a moins d'un an, une enquête auprès d'un échantillon représentatif de personnes LGBT. Savez-vous combien disaient qu'au cours de leur vie, ils avaient subi une agression homophobe ? Plus de la moitié d'entre eux. Donc c'est exactement ce que dit Julia. Et Julia est un concentré des différents modes d'agression, les moqueries, les insultes, la violence physique et les attaques sexuelles.
Le grand face-à-face continue avec le débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Et si la France était en train de devenir une société archipel, un groupe d'îles qui s'ignorent et que séparent la sociologie, les niveaux de vie, mais surtout la culture, une société multiculturelle, fragmentée, et qui n'est plus tenue ni par le ciment qu'était le catholicisme, ni cet autre ciment qu'était la culture communiste. Symptôme, le choix des prénoms, plus de Mohamed et moins de Marie. C'est la thèse d'un livre qui suscite le débat, l'archipel français. Son auteur est le directeur du département opinion à l'IFOP, et il est notre invité. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Et bienvenue, avant d'ouvrir le débat avec Gilles et Natacha qui ont lu votre livre de près, de très près, avec Gilles qui a même pris un nombre considérable de notes sur votre ouvrage. Est-ce qu'il faut réécrire la Constitution, Jérôme Fourquet? Est-ce qu'il faut prendre un stylo et rayer à l'article 1 « La République est une et indivisible » et écrire à la place « Une nation multiple et divisée » ?
Je suis pas convaincu qu'il faille toucher à ce texte constitutionnel, hein, qui est quand même le pivot de notre vie commune. Néanmoins, en termes d'analyse et en tant qu'observateur, on ne peut que constater un état de fragmentation sans précédent de notre société aujourd'hui.
Un état de fragmentation qui est véritablement nouveau. Après tout, on peut vous renvoyer la lutte des classes. C'est comme ça qu'on formulait avant les divisions profondes qui travaillaient la société française. Et on peut remonter à loin, à très loin, pour montrer des Frances qui étaient impossibles à réconcilier quand on adoptait le prisme marxiste, par exemple.
Oui, alors c'est la lutte des classes, elle opposait deux classes, en fait. Hein. Donc l'idée n'est pas de faire l'apologie d'un âge d'or mythique où on aurait une société qui était totalement homogène et totalement pacifique. La thèse que je défends, c'est qu'on avait une société qui était organisée sur justement cette dualité. Alors lutte des classes pour certains, opposition entre la France républicaine et laïque d'un côté et la France catholique de l'autre. Bien évidemment, il y avait aussi des différences régionales. On rappelle dans le livre qu'au début du XXe siècle, en Bretagne, en Roussillon ou en Corse, 70% des parents s'adressaient en langue régionale à leurs enfants à la maison. Donc il y a toujours eu une diversité, mais cette diversité, aujourd'hui, elle est sans précédent parce que, si vous voulez, on est passé d'une société que j'ai appelée organisée en silo, avec le pilier catholique d'un côté, le pilier républicain et laïque de l'autre, à une société en millefeuille où on a différentes strates qui ne se comprennent plus les unes les autres, qui ne se connaissent plus. Et le mouvement des Gilets jaunes et les réactions qu'il a suscité, par exemple, est de mon point de vue une des illustrations de cette fragmentation et de ce feuilletage de la société.
Gilles.
Oui, je crois que ce qui est intéressant dans ce qu'écrit Jérôme Fourquet, c'est qu'on passe, je le dis à ma manière, d'une société qui était pour l'essentiel divisée en deux. Alors après, on peut dire c'est catholique et matrice communiste, on peut dire le clivage gauche-droite, mais dans lequel vous aviez un alignement des clivages sociaux, idéologiques et électoraux, à une société dans laquelle il y a une fragmentation beaucoup plus forte sur tous ces plans-là. Et c'est ça le basculement majeur, et c'est, moi j'ai dit, c'est le passage d'une démocratie à l'État solide, d'une démocratie à l'État gazeux, et c'est cette fragmentation-là qui est le nouvel État et qui que Jérôme Fourquet, je crois, décrit de manière très intéressante. J'invite vraiment les auditeurs à le lire, parce qu'on apprend énormément, énormément de choses.
Natacha ?
Oui, on apprend énormément de choses. Et ce livre est un écho, sans doute, du travail de l'historien américain Christopher Lash, qui avait écrit en 1980, bien sûr, qui est cité. Et on voit comment cet homme avait raconté déjà ce qui allait arriver, la sécession des élites, mais aussi, avant ça, la culture du narcissisme, qui est le titre d'un de ses livres. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre de Jérôme Fourquet, c'est qu'il montre comment le capitalisme, d'abord, donne les moyens aux plus riches de pratiquer leur sécession. On a en permanence dans toute la société des façons d'utiliser la liberté de commercer pour permettre aux gens de ne plus faire ensemble, de ne plus former une société. Et deuxième chose, le narcissisme, c'est-à-dire cette façon de s'appuyer sur l'identité de chacun, non pas telle qu'il l'a construit à travers des grands référents, comme c'était le cas sur le catholicisme ou le communisme, mais une identité que chacun va revendiquer pour exister. Et c'est cela qui fragmente.
Jérôme Fourquet.
Oui, alors effectivement, on a en haut du millefeuille, si vous voulez, ce phénomène de sécession des élites qu'on a décrit. Alors comment ça s'est produit? Il n'y a pas eu de grands complots ou de grands plans préétablis, mais on a une un pourcentage de diplômés du supérieur qui a considérablement augmenté, donc on peut s'en féliciter, mais ces publics sont aujourd'hui suffisamment nombreux et pour vivre en espèce d'autarcie en vase clos. Ils sont plus concentrés souvent dans le cœur des grandes métropoles. On est ici à Paris. En 82, on a 25% de la population active parisienne qui est cadre. On est près de 50% aujourd'hui. Et donc c'est Paris, mais c'est aussi toute la banlieue ouest. Et donc sur des kilomètres et des kilomètres carrés, on a une population qui est socialement et culturellement autonome et qui a les moyens de vivre avec tout ce que cela comporte en termes de lieux de loisirs, lieux de travail, écoles, institutions sportives et autres, dans une espèce de bulle. Et ça, c'est pour le haut de la société. Parallèlement,
donc c'est ça, la sécession des élites, le séparatisme social. Ouais. Mais moi, j'aimerais que Gilles défende quand même le modèle social français, parce que vous citez, Natacha cite régulièrement cet historien, ce sociologue américain, Christopher Lasch, qui a travaillé sur cette révolte des élites, sur ce séparatisme des élites. Mais lui, il étudiait le phénomène aux États-Unis, où il n'y a pas du tout le même système de redistribution qu'en France, où il n'y a absolument pas les mécanismes de correction des inégalités de revenus et de patrimoine.
Là, je ne me place pas sur le plan des inégalités, et je ne critique pas et je ne conteste pas le modèle redistributif français qui fonctionne encore très très puissamment. Je me place sur un plan plus culturel en termes de mode de vie, avec des catégories de la population qui aujourd'hui ont développé un mode de vie qui est profondément différent de ceux des autres, mais surtout qui n'ont plus forcément conscience de ce qui se passe dans le reste de la société. On l'a encore vu avec le mouvement des Gilets jaunes.
Mais ça, c'est vraiment nouveau.
Il y avait un certain nombre d'institutions qui permettaient notamment aux jeunes de ces catégories-là, de se frotter, si vous me permettez l'expression, au reste de la population. Il y avait une institution qui s'appelait le service militaire, par exemple, qu'on peut en penser ce qu'on veut, mais qui, jusqu'à la fin des années 80, fait passer dans les casernes deux tiers d'une classe d'âge masculine, quel que soit le niveau de diplôme des jeunes, donc quel que soit leur niveau de social d'origine. On a également des institutions qui s'appelaient, par exemple, les colonies de vacances. 4 millions d'enfants en colo dans les années 60, on est péniblement à 800 000 cette année, et à côté de ça, le marché a développé des séjours à thème, alors qui de l'équitation, qui de l'astronomie, donc c'est toujours un peu plus coûteux, et donc on va se retrouver entre enfants de ces mêmes milieux-là. On peut prendre aussi, bien évidemment, l'institution scolaire. Alors là, on revient sur le phénomène de déchristianisation. Il y a encore un enseignement privé très important en France aujourd'hui, mais il recrute de moins en moins sur une base confessionnelle et de plus en plus sur une base sociale, notamment dans les grandes villes où les CSP+, les fameuses, colonisent, si vous me permettez l'expression, de plus en plus l'école privée. Et donc, les enfants de ces milieux-là ne sont de moins en moins en contact avec le reste de la population.
Gilles.
Oui, et avec, après, des stratégies et des stratégies territoriales qui sont très, très intéressantes d'analyser, où les familles les plus fortunées choisissent leur lieu d'habitation en fonction de la carte scolaire et de l'école pour les enfants. Je crois que c'est tout ça que décrit Jérôme Fourquet, et avec des objets qui sont des objets d'études qui sont inhabituels. Ce qu'il vient d'évoquer sur les colonies de vacances, je crois que c'est très intéressant. Au-delà même du service militaire, ce sont plein de petites choses comme ça, ce qu'il évoque sur le rapport au corps, sur le développement du tatouage, sur le rapport à la mort. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'analyser et qui sont mises ensemble dans cette évocation de la fragmentation de la société.
Et notamment les prénoms, on va en parler dans un instant, Natacha.
Oui, justement, les prénoms, les tatouages. Il y a, c'est la deuxième dimension que j'évoquais, la question du rapport de l'individu à la collectivité, c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui développe l'idée que chacun doit se construire lui-même. C'est l'individu auto-inventé.
Un auto-entrepreneur de soi-même.
Voilà. Et donc, évidemment, les prénoms, ça s'explique comme ça. C'est-à-dire qu'il va s'agir non pas d'utiliser un prénom.
Ce qu'analyse Jérôme Fourquet, ouais, de moins en moins de Marie et de plus en plus de Mohamed pour
oui,
le dire.
Oui, mais c'est pas seulement ça.
C'est pas que ça.
C'est aussi ça.
Non, c'est une diversification.
Et c'est ce qu'on a retenu aussi de votre livre, Jérôme Fourquet. Et ça, on va en parler
aussi.
Oui,
mais c'est ce qu'on a retenu. Mais non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le nombre de prénoms utilisés par les parents s'est démultiplié. Pourquoi ? Parce que avant, le prénom était une façon d'inscrire l'enfant dans une société. Maintenant, c'est une façon de lui construire son identité et son originalité. C'est pas du tout le même processus. C'est un processus d'affirmation de l'individu face au reste de la société. Ça se développe pas seulement sur les prénoms, surtout. Et ça explique l'impossibilité de se trouver du commun.
Jérôme Fourquet.
Alors, on avait jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un stock de 2000 prénoms dans lesquels les familles françaises puisaient. Alors c'était codifié, hein, depuis Napoléon, on avait une liste de prénoms autorisés à l'état civil. Et puis petit à petit, symptôme de cette individualisation de la société française, le nombre de prénoms différents enregistrés chaque année n'a cessé d'augmenter. Donc on est passé de 2000 après la Seconde Guerre mondiale à 13 000 ces dernières années. Ça, c'est 13 000 prénoms différents utilisés. Puis l'INSEE met de côté 50 000 naissances qu'ils appellent des enfants portant des prénoms rares. Un prénom rare, c'est un prénom qui va être donné moins de 3 fois dans l'année.
Exemple.
Alors, bah j'en ai pas justement, mais alors que je suis assez classique comme garçon, alors que on a 760 000 naissances, donc il faut donner une médaille aux parents, hein, puisqu'ils se sont creusé la tête pour trouver un prénom qui sera au mieux donné une autre fois sur 760 000 naissances dans l'année.
Il faudrait retrouver le sens de la codification, établir une liste des prénoms autorisés.
C'est pas le propos. Encore une fois, je suis pas dans un jugement normatif. Je
oui,
constate.
Mais votre
juste...
livre est intéressant. Il a reçu le prix du livre politique. Il suscite aussi le débat. Et vous avez vu des personnalités d'extrême droite applaudir à votre analyse onomastique, comme on dit, c'est-à-dire l'étude des noms propres.
Et des prénoms.
Je pense à Éric Zemmour qui disait, bah voilà, c'est la preuve que ce que je dis est vrai. Les prénoms, c'est un marqueur culturel et donc il y a un symptôme de la fragmentation de la société et du multiculturalisme par le fait, bah, je le rappelle, qu'il y ait de moins en moins de Marie et de plus en plus de Mohamed.
Alors plus en plus de Mohamed, c'est pas évident justement, le pourcentage de Mohamed est assez stable depuis une vingtaine d'années, mais effectivement l'étude des prénoms permet à la fois de montrer ce phénomène d'individualisation mais aussi de fragmentation.
Alors, mais l'utilisation de votre étude par Éric Zemmour et d'autres alors, de son genre.
Alors on peut rappeler à...
Ça vous gêne ou pas?
Mais écoutez, moi je suis là pour faire un constat, donc chacun ensuite se positionne par rapport à cela. Je rappelle juste que le policier qui a été abattu devant Charlie Hebdo s'appelait Ahmed Merabet, que les trois premières victimes de Mohamed Merah sont des parachutistes qui étaient d'origine maghrébine à Toulouse et qui portaient donc ces prénoms de ce type, et que 10% des pertes françaises en Afghanistan, qui sont des gens qui sont partis donner leur vie pour combattre les talibans, porter aussi ce type de prénom. Donc, ce type de prénom ne prédispose pas à un degré d'intégration moins important ou à une mise en doute du patriotisme de ces personnes.
Donc je peux me rassurer en l'occurrence me prénommant Ali. Alors,
je peux
m'intégrer.
Je constate. Oui, mais... On doit remarquer quand même que sur des vagues d'immigration plus anciennes. En l'espace d'une génération, les prénoms donnés étaient des prénoms français. Donc on avait, on le regrette ou pas, un système qui poussait à l'assimilation, alors que ce système, aujourd'hui, fonctionne moins bien pour ce qui est de l'immigration, mais ça s'inscrit dans une trame plus générale de fragmentation, d'affirmation identitaire, alors qu'il peut être culturel, religieuse ou autre, mais elle peut être aussi régionale. On a tout un chapitre sur l'essor des prénoms corses en Corse, qui est corrélé...
Basque.
Alors, basque également, mais en Corse, c'est très très marqué, et qui est corrélé avec la montée en puissance d'un vote nationaliste dans cette île.
Natacha.
Je pense que, Ali, quand vous posez la question, est-ce que je peux m'intégrer? C'est une question intéressante, en blaguant, bien sûr.
En blaguant.
Mais, bien entendu. Mais parce que ce mot intégration, on a tendance à ne l'appliquer que aux gens issus de l'immigration. Or, je pense que la question que pose ce livre, c'est justement celle du fait que l'intégration concerne toute personne qui vient au monde et qui arrive, donc qui naît dans une société. Comment s'intègre-t-on à la mémoire de cette société, à ce qu'il l'a construite pour la perpétuer? Parce que s'il n'y a pas d'intégration, mais d'où que l'on vienne, s'il n'y a pas cette façon de se nourrir de tout ce qui a porté une société, alors cette société, tout simplement, s'évanouit, s'évapore.
Jérôme Fourquet.
Alors si on poursuit sur l'analyse des prénoms, les sociologues qui travaillent sur ces questions-là avaient montré qu'il y avait une espèce de théorie du ruissellement applicable aussi aux prénoms, c'est-à-dire que les prénoms étaient d'abord donnés, les nouveaux prénoms, par les élites, par les milieux culturels, et puis que par ruissellement, capillarité, au bout de quelques années, ça descendait dans toute la structure sociale. C'est plus le cas aujourd'hui, donc c'est un autre symptôme de cette dislocation de la société française, avec le signe, par exemple, manifesté dans les milieux populaires d'une autonomisation culturelle, avec des choix massifs pour des prénoms anglo-saxons. Alors on aura bien sûr en tête tout de suite, Kevin. À l'esprit, le prénom Kevin, qui a été le prénom masculin le plus donné en France de 1989 à 96. Il y a 160 000 Kevin en France. Et donc ces prénoms, ils n'ont jamais été donnés par les familles qui se revendiquent de l'élite. Et donc, c'est des catégories populaires qui se sont autonomisées. Cette France d'en bas, dont parlait Jean-Pierre Raffarin, qui ne regarde plus comme un modèle la France d'en haut. Alors, on peut s'en féliciter, mais on voit là aussi que les étages ou les couches du millefeuille sont de moins en moins en osmose.
Est-ce que vous avez travaillé sur les prénoms parce qu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France ?
Alors, on a travaillé sur les prénoms parce que, vous avez pris le cas de Marie tout à l'heure, de notre point de vue, c'est un formidable révélateur de toute une série de phénomènes sociaux et culturels sur la longue durée. Et donc on s'est appuyé sur un fichier de l'INSEE qui est un fichier brut, hein, il n'y a pas de classement, mais il recense toutes les naissances intervenues en France depuis 1900. Et donc c'est un formidable terrain d'analyse puisque c'est 83 millions d'individus qui sont registrés dans ce fichier de l'INSEE. Et donc on peut tirer des analyses. Hein. Donc on a parlé d'un certain nombre de catégories de prénoms, mais c'est tout à fait fascinant.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est relativement nouveau de s'intéresser, enfin, on s'intéresse à nouveau aux prénoms. Ça fait longtemps que ce travail-là n'avait pas été fait et que c'est très évocateur. Il y a à la fois les faits et l'interprétation des faits. Sur les faits, la diminution du nombre de maris, c'est très spectaculaire, ça veut sûrement dire beaucoup. Pour le reste, c'est pour l'essentiel une individualisation et une fragmentation absolument considérable. Donc il y a beaucoup plus de maris, beaucoup moins de maris, mais il n'y a pas beaucoup plus de Mohamed. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de prénoms arabo-musulmans, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, on dit 18% des naissances.
Mais parfois c'est plus compliqué. Maria, par exemple, c'est aussi un prénom musulman.
Alors oui, mais Marie, c'est un prénom qui était, on reprend l'exemple de Gilles, 20% des petites filles qui naissent en France en 1900 s'appellent Marie, 20%, on est à moins de 1% aujourd'hui.
Et 50% dans certains départements. Donc ça, là, il y a un phénomène massif, mais pour l'essentiel, c'est individualisation, fragmentation. Après, quelle est l'interprétation ? D'abord, je pense que c'est légitime de regarder ça, il y a toujours un débat, faut pas regarder, enfin... Très bien. On avait d'ailleurs commencé à le faire ensemble, avec Jérôme Fourquet, dans un livre qui s'appelait « Karim, vote à gauche et son voisin, vote FN », il y a 3 ou 4 ans, 5 ans de cela. La question c'est, est-ce que c'est un marqueur d'une identité culturelle ? C'est vrai pour les familles d'origine arabo-musulmane, mais c'est vrai avec les identités régionales, et que signifie ce marqueur-là. Est-ce que c'est le dernier élément qui nous rattache à une culture qui est en train, petit à petit, de s'affaisser, ou est-ce que, au contraire, c'est le signe d'un refus d'intégration ? Et c'est là où le débat politique et les divergences, le cas échéant avec Éric Zemmour, peuvent intervenir.
Jérôme Fourquet.
Oui, parce que voilà, Gilles a donné le chiffre. Hein, donc c'est sur les naissances en 2016, c'est 18% des nouveau-nés qui portent un prénom qu'on peut rattacher à cette terre culturelle arabo-musulmane, alors même que ces familles expérimentent au quotidien le fait que porter ces prénoms expose dans la société française d'aujourd'hui à des discriminations, à l'emploi, au logement, et pour autant, ces prénoms sont très très massivement donnés dans ces familles. Donc ça peut être un signe d'attachement tout à fait légitime à une culture d'origine, ça peut être aussi, dans certains cas, un retournement de stigmate, comme dirait Goffman, en disant voilà, nous on assume et on vous place devant cette réalité-là.
Natacha ?
Mais la question qui se pose derrière, c'est celle de l'avenir d'une société comme celle-là. C'est-à-dire que cette fragmentation est en train petit à petit de nous empêcher de nous penser comme une communauté politique. Et donc de mettre en œuvre ce qui pourrait ressembler à une véritable démocratie. Donc le devenir en archipel de la France est extrêmement inquiétant. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes ressurgir la question sociale. Et donc c'était une mise en cause formidable de cette sécession des élites. D'ailleurs, la réaction a été violente des deux côtés. Il y a de la haine des deux côtés. C'est profondément inquiétant. La dimension individualiste qui ne permet plus d'avoir une culture commune est elle aussi inquiétante.
Mais on a gagné la Coupe du Monde de foot et là pour le coup on a vu un ciment très fort unir la nation tout entière, Jérôme Fourquet. La France n'est pas qu'un archipel.
Je reconnais là votre optimisme. Effectivement, il s'est passé de très belles choses à ce moment-là, mais on a comparé, on a fait un sondage dans les jours qui ont suivi et on a posé les mêmes questions que l'IFOP avait posées en 98 lors d'une précédente victoire footballistique. L'impact de cette victoire sur comment les Français conçoivent leur communauté nationale n'a rien à voir en 2018 par rapport à ce qui s'était passé en 98. À l'époque, 50%, la victoire de la France Black Blanc Beur, 50% des Français pensent que cette victoire de la bande à Zidane va permettre aux différents groupes qui constituent la société française de cheminer ensemble et de faire société ensemble. L'item est un peu différent dans la formulation, mais je résume. 20 ans plus tard, on n'est plus qu'à 30% de la population qui estime que la victoire de la bande de Griezmann et Mbappé va permettre de remettre un ciment commun dans cette société très fragmentée.
Mais vous avez un constat extrêmement sombre, il n'y a donc plus rien qui tienne la société française ensemble.
Il faut pas tordre le bâton dans l'autre sens.
Je ne fais que vous écouter.
On a une langue commune, on a des institutions, on a une histoire, on a pas mal de choses. Mais le risque qui peut exister, c'est que petit à petit, on soit pas forcément dans un affrontement, mais dans une logique qu'on pourrait appeler de syndic de copropriété. C'est-à-dire que tout le monde intéresse que le bâtiment tienne bien, parce que tout le monde y a des intérêts bien compris, mais que on ne fasse plus lien ensemble et que chacun se développe ou vive sa vie de sa propre manière. Il faut toujours regarder ce qui se passe du côté des élites dans une société, et je pense que, de manière un peu provocatrice, l'expatriation massive de toute une partie de ces catégories de population, c'est le symptôme ultime d'une forme de sécession. Quand certains vous disent qu'ils ont plus en commun avec un homologue étranger d'une grande métropole qu'avec un concitoyen d'une autre classe sociale qui vit dans la France périphérique, il y a effectivement...
À qui pensez-vous ?
Je pense que vous avez pas mal d'exemples en tête. Je pense qu'on est là sur vraiment une interrogation.
Non, que les choses soient claires, vous parlez de Raphaël Glucksmann.
Alors, Raphaël Glucksmann lui avait dit...
Il a dit
je me sens plus chez moi à Londres ou à Berlin que quand je me rends en Picardie. Mais il ajoutait, c'est bien là le problème. Donc lui, il est conscient de ce degré de fragmentation, et comme rappelait Natacha Polony, la crise des Gilets jaunes, de part et d'autre, a montré un état de tension ou d'affrontement entre ces deux strates de la société française qui, de mon point de vue, est sans précédent.
Natacha.
Et c'est là qu'intervient la politique. C'est-à-dire que c'est le rôle de la politique, et je pense que ça va être encore plus son rôle dans les années à venir, d'essayer de trouver un équilibre extrêmement complexe entre l'individuel et le collectif. Parce qu'il est hors de question de se dire on va revenir à un nombre de prénoms obligés, on va revenir à un monde un monde coercitif vis-à-vis des individus parce que c'est la seule façon de former une société. Non, ça ne se passera pas. En revanche, essayez de trouver l'équilibre. Par exemple, vous citiez la langue comme facteur commun. Bon, l'enseignement d'une langue de qualité, la perpétuation d'un travail sur la grammaire, est essentiel parce que c'est ce que nous avons en commun et non pas une langue affaiblie où on se contente de très peu de mots de vocabulaire. Donc tout ce travail des politiques, il va devoir être fait pour trouver tous les moyens de redonner un tout petit peu une dimension collective.
Jérôme Fourquet.
Alors je pense que Emmanuel Macron est assez conscient de cet état de fait, et notamment c'est pour ça qu'il pousse par exemple son initiative de service universel, alors qu'il n'aurait pas la puissance qu'avait l'intégratrice du service national qu'on a connu par le passé, mais c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Effectivement, il faut essayer de trouver tout ou renforcer les institutions ou les collectifs qui permettent de créer encore du lien, sachant qu'effectivement, on ne reviendra pas à un statu quo passé.
Créer des lieux de débat également, et là, oui, pour le coup, le constat est sombre pour vous, Natacha, puisque vous parlez de la presse, vous parlez notamment des grands hebdomadaires qui sont en crise et qui, il y a quelques années encore, permettaient de structurer le débat public et le débat intellectuel.
Et puis donner une grille de lecture commune, en tout cas, un nombre important de lecteurs.
Je pense qu'on est
à la fragmentation sociologique que décrit Jérôme Fourquet répond une fragmentation politique que l'on a vue à l'œuvre notamment au premier tour de l'élection présidentielle, où c'est une France pentagonale avec en gros 5 bouts qui font 20% chacun entre les 4 principaux candidats et les 20% d'abstentionnistes. Et je crois que c'est ça qui illustrait ce qu'était la France d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui la tient ? Il y a des choses qui la tiennent malgré tout. On a évoqué la langue, on peut dire son modèle social au sens de l'État-providence, de la sécurité sociale, c'est quelque chose du système de retraite. Ça, c'est quelque chose qui tient les Français, parce qu'il y a une solidarité entre les générations. Mais la difficulté, c'est de redonner une lisibilité au débat public face à cette France
fragmentée. Il reste
fragmentée.
Très peu de temps, Natacha.
Alors, en 30 secondes, je dirais que le véritable enjeu pour les politiques, c'est de lutter contre cette forme du capitalisme consumériste qui aujourd'hui instrumentalise cette individualisation des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des mesures politiques qui sont à prendre pour reprendre la main sur l'économie.
Comme la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, Jérôme Fourquet, que vient faire cet exemple-là dans l'analyse de l'archipel français? Que dit cette...
Alors, ça dit beaucoup de choses. Entre, par exemple, le fait qu'on a des visions du monde qui sont radicalement différentes entre, par exemple, les habitants de la grande métropole toulousaine qui sont massivement en faveur de la réintroduction de l'ours, et des populations des hautes vallées des Pyrénées qui vivent encore beaucoup du pastoralisme et qui ne comprennent pas que la hiérarchie homme-animal, qui là aussi est héritée de notre philosophie judéo-chrétienne, de notre histoire de longue durée, soit remise en cause. On voit, c'est pas anecdotique cette question de l'animalisme et de la distinction entre l'homme et l'animal. Tous ces anciens référents sont aujourd'hui mis à mal.
Merci Jérôme Fourquet d'être venu nous rendre visite et d'avoir débattu avec nous. L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, est publié aux éditions du Seuil. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Fred Milano, à la technique Guillaume Roux. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.